L'an passé, juste sur les statistiques de la saison de l'an passé, je m'amusais à voir les équipes avançant en série, desquelles avaient des joueurs de plus gros gabarit, desquelles avaient des plus petits joueurs, et tout ça. Pas juste amuser, je voulais avoir des réponses. Et donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai lu l'article du athletic.com ce matin, qui est écrit par un collègue de Marc-Antoine, bien sûr, Marc-Antoine Godin, qui était avec nous, Joe Smith, qui se pose la question à voix haute. « When building a Stanley Cup winner, does size matter? Est-ce que le gabarit compte? » Puis tous les DG doivent se le demander. Marc-Antoine, le Lightning de Tampa Bay n'a pas décidé de faire sauter à Cabane parce qu'ils ont été sortis en première ronde l'an passé. Ils viennent d'embaucher Maroon. Tout le monde va te le dire, c'est important d'avoir des joueurs de gabarit. Mais la réponse de Doug Armstrong, qui vient de la soulever la Coupe cette année, est peut-être une des plus intéressantes dans l'article, et je te laisse commenter avec ça.
Oui, parce que lui, il va dire un instant avant de passer à la conclusion automatique, il faut plus gros, mieux. C'est. Il dit, moi, ce que j'ai surtout cherché à faire avec les Blues, c'est de m'assurer que c'était à la ligne bleue qu'on allait être gros, qu'on allait être imposant, parce que c'est difficile d'affronter des gros défenseurs. Le temps, en autant qu'ils soient un peu mobiles, ils sont tous à contourner, puis ça me fait penser, comme ça, voir des adversaires arriver dans notre territoire, puis les sentir comme s'ils sont au lavoto. Il y a des bras, il y a des mains partout. C'est ça qu'il a essayé de faire avec les Blues, avec succès, parce que tu regardes des gars, évidemment, comme Pietrangelo, comme Colton Parayko, ont été imposants en séries éliminatoires. C'est une grosse ligne bleue, puis je pense que c'est vraiment la leçon que tout le monde a voulu retirer des dernières séries éliminatoires puis des derniers gagnants de la Coupe. Cela étant dit, à chaque année, on a l'impression qu'on va examiner chez l'équipe championne quel ingrédient en fait la différence, puis est-ce qu'il y a une formule magique pour aller remporter la Coupe Stanley. Puis personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas, parce que cette formule-là, elle change à chaque année. Alors, il y a quelques années, c'était les Penguins de Pittsburgh avec la vitesse. L'année dernière, avec les Capitals de Washington, on a vanté plus que jamais la force d'une ligne de centre avec Kuznetsov, Backstrom, qui est l'harceleur comme troisième centre. Cette année, c'est d'être costaud. L'important, je pense, c'est qu'une équipe doit identifier quelles sont ses forces et qu'elle travaille en fonction de ses forces et qu'elle développe elle-même sa propre formule. C'est là la clé. Alors, la formule des Blues, ça ressemblait à ça, mais ça ne veut pas dire nécessairement que si tout le monde applique la même formule, ben tout le monde va avoir du succès. C'est difficile d'aller chercher.
Je suis pas mal d'accord avec ça. C'est ça, la vérité n'est pas dans une seule réponse, mais tu as raison. Puis tu bâtis, comme un des DG le dit, tu bâtis ton club autour de tes meilleurs joueurs. Cole Caulfield, exemple, va devenir, en principe, une des... Il va devenir vraiment une sensation auprès du public québécois. Il va avoir du charisme, il va marquer des buts. Là, ça va être un Mats Nesslund version 2019. Peut-être qu'il va marquer plus de buts encore que Mats à l'époque. Mais ouais. Donc, tu vas bâtir ton club autour de lui. Il veut pas. Donc, un de tes meilleurs attaquants va être un petit joueur. Alors, c'est ça.
Mais en même temps, Mario, il y a des avantages à avoir des gros joueurs au sein de ton équipe. Dans le bloc précédent, on parlait de Brendan Gallagher, puis je te parlais de temps de glace optimum.
Énergie, oui.
Des joueurs, c'est ça, au niveau d'énergie, avoir des gars qui sont des chevaux de trait, là, qui sont capables de t'en donner pendant 19, 20, 21 minutes. C'est le fun d'avoir ça dans ton équipe. Puis, on peut pas dire que le Canadien en a beaucoup. Puis, historiquement, c'est quelque chose qui leur a manqué beaucoup à l'attaque. Alors, c'est un facteur qui rentre en ligne de compte. L'énergie aussi, plus tard en saison, l'énergie rendue en série éliminatoire quand les arbitres deviennent plus tolérants. Un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à une conversation avec un joueur de l'Association Ouest durant la saison dernière. Il me disait, faites bien attention, parce que là, on a beau parler du fait que le jeu devient de plus en plus vite, puis qu'il a ouvert la porte. On a ouvert la porte dans la Ligue nationale aux petits joueurs. Les gros joueurs, la revanche des gros joueurs s'en vient parce que les jeunes qui sont aujourd'hui dans le bantam, dans le midget ou dans le junior, qui sont plus gros, ils apprennent à jouer plus vite et à développer leur coup de patin. Puis on va retrouver à un moment donné de ces gros bonhommes-là qui ont 6 pieds 3, 6 pieds 4, qui patinent comme le vent, comme des plus petits. Ils vont retrouver un jour leur avantage compétitif. Donc là, pour l'instant, on est dans une mode où il y a plus de petits joueurs, mais j'ai bien hâte de voir dans 5-6 ans s'il n'y aura pas un retour du balancier en ce sens-là.
Ça me ramène à te poser une question sur un joueur du Canadien, Paul Byron. Son nom est sorti, bon, je lisais ici et là les rumeurs, son nom est ressorti dans quelques rumeurs de transactions avec celui d'Andrew Shaw. Or, Andrew Shaw a effectivement changé d'adresse, pas Paul Byron, qui commence un nouveau contrat de 4 ans. As-tu l'impression que le Canadien, qu'il est sur le marché?
Ben, écoute, il a été nommé, assistant capitaine au début de la saison dernière. On était empressé de lui faire signer ce nouveau contrat-là. Ça aurait l'air d'un état-major qui vraiment a changé son fusil d'épaule rapidement à son sujet pour qu'on décide de l'échanger. Je comprendrais, par exemple, pourquoi le Canadien veut l'échanger. Je ne pense pas, cependant, qu'il soit sur le marché. Pourquoi je comprendrais qu'on veuille l'échanger? Parce que c'est un joueur qui est intéressant pour d'autres équipes à cause de sa production, mais c'est un autre petit joueur, c'est un gars qui arrive à 30 ans et qui, à un moment donné, il va falloir que tu fasses de la place si tu veux vraiment continuer ton virage jeunesse, faire de la place à Nick Suzuki, à Ryan Poehling et un jour à Cole Caulfield. Il faut que tes joueurs qui sont des joueurs de soutien, des gars de troisième trio, dont faisait partie Andrew Shaw, Byron est là-dedans, Joel Armia, il est là-dedans. Ces gars-là, à un moment donné, il faut pas que tu tombes trop en amour avec eux parce que c'est par eux qu'il va falloir faire de la place pour rentrer du 109. Et moi, ma crainte avec Byron, c'est au niveau de son état de santé. Est-ce qu'il va être capable de retrouver la forme et de rester loin des blessures? Parce que si c'est pas le cas, puis qu'il commence à être magané, ce contrat de 4 ans-là, il va être assez long. Là.
Ben écoute, il a 30 ans. Penses-tu que dans la perspective de vouloir l'échanger, son contrat est un problème?
Oui, je pense que oui. Oui, parce que, écoute, quand on regarde toutes les transactions à l'heure actuelle dans la Ligue nationale, on les fait en fonction on regarde le salaire. On regarde la production, mais on regarde le salaire aussi. Et puis, les équipes cherchent à se commettre le moins possible au niveau salarial. Surtout pas avec un gars qui commence la trentaine. C'est pas vraiment un atout qui joue en sa faveur. En même temps, si tu regardes par minute d'utilisation ou par son taux de succès au tir, parce que c'est un gars qui tire pas souvent, mais quand il tire pour vrai, puis la rondelle rentre dans le filet, c'est un gars qui a vraiment des outils pour intéresser d'autres équipes, puis tout le monde aime son acharnement. C'est clair qu'il trouverait preneur, mais je peux pas croire que son contrat à l'heure actuelle, qui ne fait que commencer, vient pas un peu diminuer sa valeur.
13,6 millions sur 4 ans et c'est sûr qu'on est content pour lui. Il faut dire qu'on parle de ses blessures. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont soulevées par rapport à son état de santé. Je constate quand même qu'il avait disputé à peu près tous les matchs des deux saisons précédentes. Alors, on se croise les doigts pour le Canadien Marc Bergevin parce qu'effectivement, c'est pas un contrat. Même au départ, c'est un contrat généreux pour un gars dont on ne connaît pas l'avenir au sein de l'organisation. Il y a beaucoup de considérations. Est-ce qu'on verra Caulfield et Byron dans la même équipe un jour, tu penses? Je n'en suis pas sûr.
Ben, écoute,
il faudrait que
Byron quitte à la fin de la saison parce que je m'attends pas à ce que Caulfield passe plus d'une année à l'Université du Wisconsin. Il va être à Montréal à l'automne 2020, je suis pas mal sûr.
Marc-Antoine, bien content de t'avoir parlé. Ça valait vraiment la peine avec tous ces sujets-là. Un gros merci et je te dis à très bientôt.
Oui, on se reprend bientôt. Merci, Mario.
Bye-bye. Marc-Antoine Godin, donc directeur de la rédaction du magazine Web Athlétique de Montréal. Dans quelques instants, un avant-goût de Bonsoir les sportifs avec Jérémy Rainville. Et je vous invite à ne pas manquer l'entrevue que m'accorde la maman, charmante maman d'ailleurs, d'Abraham Taureau, qui a fait ses débuts en fin de semaine dans le baseball majeur. On vous présente ça tout juste après les nouvelles de 20h.